Micro Club Sandwich.
Votre rendez-vous d'actualité locale, associative et culturelle
sur Radio Campus Amiens. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien branchés sur Radio Campus Amiens avec Anna pour votre première émission quotidienne de la semaine. Et aujourd'hui, on reçoit Alexandra Carpentier de l'association Divergenre 80 dans le cadre des journées de la visibilité trans que Divergenre organise en partenariat avec l'UPJV, l'Université du Littoral Côte d'Opale ainsi que l'Université d'Artois. Bonjour.
Bonjour.
Alors, avant de parler un peu plus en détail du projet que vous avez organisé, j'aimerais que tu nous présentes un petit peu l'association Divergenre. Votre objectif, c'est un peu d'accueillir et de soutenir les personnes en questionnement sur leur identité, c'est ça ?
C'est ça. C'est un peu résumé. Il y a aussi également des personnes qui sont déjà avancées, qui ne sont pas forcément qu'en questionnement, mais qui ont besoin de soutien par rapport à le médical ou toutes les formes de soutien, en fait. Ça peut être aussi des proches, parce qu'on a aussi l'occasion de répondre à des proches qui sont inquiets ou qui ont besoin de, notamment quand c'est des ados ou des mineurs en fait. Donc ça c'est du soutien, de l'accompagnement médical ou autre et en auto-support en fait, parce qu'on n'a pas de... c'est par, pour et avec les personnes trans en fait, et minorité de genre en général.
Il y a un peu un manque d'informations peut-être pour les personnes, pour par exemple les parents de mineurs ou tout ça.
Beaucoup, oui. Beaucoup partent sur des a priori où il y a des... où leurs enfants vont vraiment se faire harceler. Bon, ça peut arriver évidemment, mais qui leur mettent des points de blocage en fait vis-à-vis de l'acceptation de, leur, de leurs enfants dans leur pleine conscience de leur transidentité ou non-binarité ou toutes les minorités de genre en fait. Donc il y a encore pas mal de... d'informations qui se transmettent du bouche à oreille sur les réseaux, tout ça, et c'est pas encore très diffusé en fait. Oui, il manque des infos.
L'idée c'est aussi d'accompagner et de lutter contre l'isolement qu'engendre la transphobie.
Bah, bien sûr, oui. La transphobie, il y a plein de formes de transphobie, la transphobie ordinaire, il y a la transphobie administrative. On a souvent une image de la transphobie où c'est une transphobie qui est dans l'agression, dans la transphobie physique, mais ça peut être aussi verbal ou les milieux sociaux, l'environnement dans lequel on navigue, et qui peut entraîner de l'isolement justement, et encore plus dans le contexte actuel où c'est encore plus le cas en fait. C'est encore plus difficile de trouver des ressources et des personnes soutenantes.
Et si on en ressent le besoin du coup de venir apporter des réponses, tout ça, est-ce qu'on peut venir discuter avec les membres de l'association ?
Oui, bien sûr. On est disponible sur les réseaux, par mail. On a aussi un site internet, divergenre.fr. Et ensuite, à partir de là, on essaye de se programmer un moment, un temps. Ça peut être individuel, ça peut être aussi accompagné avec des parents, des parents qui nous sollicitent, par exemple. Ou aussi, on essaye de remettre en place tout doucement. Il y a eu un creux avec toute la pandémie, où c'était vraiment très très compliqué de reprogrammer des moments collectifs, ce qu'on a fait par le passé, et qui est très important en fait, et on a encore, toute cette année, on a bien entendu que c'était un besoin, un réel besoin des personnes concernées de retrouver du contact, du lien social avec des personnes qui sont elles-mêmes concernées en fait, parce que c'est très difficile de parler de choses si profondes vis-à-vis de l'identité de genre, etc., à des personnes qui ne le sont pas, même si on peut très bien, les personnes qui ne sont pas concernées peuvent très bien accueillir. C'est pas la même chose, en fait. C'est pas la même chose. On n'a pas ce niveau de confidence, entre guillemets.
Et est-ce que, donc en dehors de l'événement dont on va parler juste après, est-ce que vous mettez en place d'autres actions ici à Amiens ?
Alors, on essaye. C'est pas évident, mais j'en parlais. Au niveau des actions, il y a toujours la réponse continue, en fait, à toute demande de soutien. C'est déjà ça. Ça peut être aussi bien même des échanges par téléphone ou enfin pas forcément du présentiel ou des juste par l'internet, mais aussi comme j'en parlais juste avant, on vient de refaire un moment collectif, un temps de parole, un cercle de parole, on va dire. Et on était une dizaine de personnes et on a retrouvé un lieu en fait qui est adapté aux nouvelles conditions sanitaires, qui a de l'espace et qui est favorable en fait à nous accueillir. Et ça, c'était un point bloquant qu'on avait, et là on a retrouvé ça, et du coup on va pouvoir opérer. Bon, c'est toujours un peu difficile de jongler avec les nouvelles annonces, etc. Reconfinement, déconfinement.
Mais vous avez réussi à faire ça en présentiel, en
oui,
tout cas.
Oui, le mois dernier, on a réussi à faire ça. Et du coup, là, on va essayer de reproduire, parce que, comme je le disais, c'est un vrai besoin, en fait. Les gens ont besoin de voir leur père, en fait.
Donc, pour revenir un petit peu sur l'événement, comme je le disais, vous organisez donc en partenariat avec l'UPJV, mais aussi avec l'Université du Littoral Côte d'Opale et l'Université d'Artois, les journées de la visibilité trans, donc le 30 et le 31 mars, avec notamment des ateliers, des rencontres, des débats autour de ce sujet. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment vous est venue cette idée pour créer cet événement ?
Bah en fait, il y a deux journées internationales qui sont très importantes pour la communauté trans et des minorités de genre, c'est le Tidour, c'est la journée du souvenir trans, c'est le 20 novembre, et il y a aussi le Tidouv, la journée du visite trans, qui est le 31 mars, c'est vraiment deux journées très très importantes. Le Tidouv, c'est depuis 2009, et en fait l'idée c'est de visibiliser l'ensemble des minorités de genre et toute leur diversité, et de visibiliser aussi les parcours, les difficultés, mais aussi la beauté en fait de tout ce que ça représente, cette diversité. Et on avait déjà fait un événement il y a 2 ans qui se passait au clos à côté de... Bon, c'est pas grave. Et c'était très plutôt réussi. On avait fait avec les moyens qu'on avait. On avait fait une expo et tout ça, et aujourd'hui c'est vraiment important en fait comme journée, et cette idée c'est pas sorti nulle part, c'est un besoin en fait, ça vient d'un besoin, et on a eu la chance d'avoir des échanges et de rencontrer les référentes égalité femmes-hommes et du contre les discriminations de minorités de genre à l'UPJV. En fait, c'est des postes qui sont assez récents, enfin des titres qui sont assez récents. Et l'idée, c'est de pouvoir essayer de créer quelque chose ensemble, parce que nous, de notre côté, on n'a pas beaucoup de moyens, de force, etc. Et avec l'appui du PJV, bah là, rien que là, on a un lieu, en fait. Mmh. On a un lieu, on a du matériel pour pouvoir faire des choses et exposer, tout ça. Ça, c'est quand même des difficultés qui sont difficiles à surmonter, en fait, qu'on est une petite association, qu'on n'a pas beaucoup de visibilité, qu'on n'a pas d'argent, en fait, pas de lieu. Et donc, voilà, ça, c'est venu un peu de là. Et de fil en aiguille, on s'est dit, ah, tiens, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose, malgré le contexte, et parce que c'est hyper important. Et puis, bah, finalement, ça peut se faire, et c'est vraiment génial.
Et comment ça s'est passé, votre partenariat avec les universités ? C'est vous qui les avez contactés ? Ou bien c'était un projet que eux ils avaient envie de mener avec vous.
Ça s'est fait un peu par hasard parce qu'il y a en fait on soutient des étudiants et étudiantes qui sont trans et il y a eu des problèmes avec des changements de prénom et de genre sur les papiers, et du coup on a commencé à collaborer comme ça en fait avec l'UPJV pour essayer de résoudre et mettre en place des outils qui permettraient d'aider les personnes qui ont besoin de changer leur carte d'étudiant, etc. Et ensuite, on s'est dit, bah, tiens, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose. Et à ce moment-là, est arrivé, on a pensé à la date du 31 mars, qui pouvait correspondre à une date symbolique sur laquelle on pourrait mettre en place des événements qui seraient rassurants, réconfortants, importants pour les étudiantes et étudiantes trans en particulier.
Et c'est important du coup que les universités quand même participent à un projet tel quel, enfin, c'est quand même pas anodin, et du coup c'est quand même plutôt bénéfique que l'université se mette d'accord et lutte contre finalement la transphobie et tout ça.
Bah oui, j'ai envie de dire que c'est inédit en fait, ouais. Je crois qu'il n'y a pas eu encore ça en France, un partenariat entre association et université pour créer quelque chose dans le soutien des minorités de genre et des personnes trans. Voilà, et c'est fantastique que ça ait lieu là comme ça. En plus, par ce contexte, on arrive à faire quelque chose comme quoi, en fait, on peut toujours essayer de faire des choses. C'est devenu beaucoup plus difficile, mais avec un peu d'adaptation, il y a toujours moyen de faire des choses, parce que et de pas et de ne pas oublier les gens, de pas oublier les gens.
Il y a un manque de connaissance de la population face à ces sujets-là. Vous estimez
Oui, ça évolue évidemment avec le temps, les nouvelles générations, les réseaux, l'information circule de plus en plus, les médias, les représentations dans les médias. Évidemment, ça évolue, mais il y a toujours une progression à faire là, c'est sûr. Il y a encore des idées reçues qui sont difficiles, qui sont mauvaises, qui entraînent de la souffrance globale et systémique aussi. Et il y a encore aussi, ça a des impacts aussi sur la façon dont on vit nos parcours. Je pense à l'administration où c'est encore très compliqué. Ça demande beaucoup d'énergie, alors que ça pourrait être beaucoup plus simplifié. Et c'est les revendications des associations, en fait, de simplifier les choses. Parce qu'en fait, c'est normal, en fait, de ne pas se sentir dans le genre devant lequel on a été attribué la naissance.
Et du coup, est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu sur la programmation, sur ce qui va être proposé durant les deux journées ?
Oui, bien sûr.
Donc, par exemple, le 30 mars, il y a une rencontre avec Clovis Maillet. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu, ce qui va se passer ?
Alors effectivement, il y a Clovis Maillet qui vient nous rendre visite à Amiens. C'est un auteur historien qui est lui-même concerné, c'est un historien trans, qui vient de sortir un ouvrage qui s'appelle « Les genres fluides » et qui traite, il a fait beaucoup de recherches sur les représentations du Moyen-Âge notamment, avec tout ce qui concerne les représentations de sainteté. Là, je pense du coup à Jeanne d'Arc, en fait, et qui, en fait, était une personne trans, et fait le lien qu'en fait, tout ça ne date pas d'hier, et que c'est pas la modernité d'aujourd'hui qui est le point d'orgue, en fait, à faire avancer les choses, mais peut-être qu'on peut aussi se retourner vers le passé, où il y avait de la fluidité dans les genres, et
lutter un petit peu contre l'expression effet de mode qui revient tout le temps.
Tout à fait. Oui, oui, c'est vraiment le mot, en fait. C'est pas un effet de mode, mais ça date de beaucoup plus loin qu'on ne peut le penser. Et c'est pas un argument qui est donc valable. Et du coup, pour la programmation, bah, il sera là. En première partie de journée, des 10h, il y aura des ateliers avec lui. Il va présenter deux ateliers. C'est sur inscription parce que bah, forcément on ne pourra pas accueillir tout le monde et donc il y a le...
C'est en présentiel.
C'est autorisé parce que ça rentre dans le cadre de l'UPJV et je crois que c'est limité à 15 personnes donc il faudra se dépêcher pour les personnes qui... puis il y a un break déjeuner qui permettra de faire de l'échange un peu. Autour de tout ce qu'on peut attendre d'une association, mais aussi créer du lien social, etc. Pour sortir. L'idée, c'est de créer une opportunité de sortir de l'isolement et de parler, d'échanger, en fait, hein, tout simplement. Un déjeuner tranquille. Et l'après-midi, il y a une conférence que va mener Clovis Maillet, qui sera diffusée sur les réseaux, mais aussi en présentiel pour les personnes qui seront là.
Donc pour la visio, il n'y aura pas de nombre.
Non. Non, du coup.
C'est ouvert à tous.
C'est ça, le lien sera ouvert à tous. On a fait ce choix parce qu'au début, on se demandait si c'était juste pour les étudiantes et les étudiants trans, ou alors les profs ou les choses comme ça. Mais ça aurait été limitant, en fait, pour d'autres personnes qui seraient vraiment intéressées par la conférence plutôt. Et voilà, on a fait un choix. Mais c'est un choix d'inclusivité.
Et le 31 mars, qu'est-ce que vous avez organisé ?
Alors le 31 mars, c'est un peu plus light. Le matin, il y a rien de prévu. Pareil, sur le temps du déjeuner, en fait, on aura une connexion visio avec d'autres associations, plutôt toujours dans la Haute-France, mais de Lille, avec le J'en suis, j'y reste, et le collectif 106, qui sont aussi des associations de soutien aux personnes trans et minorités de genre, et qui va... Ça va déboucher sur des échanges, sur un peu comment lutter, sur plein de choses en fait. On ne sait pas encore exactement sur quels seront les sujets, mais ça va être super intéressant.
L'idée, c'est que les intervenants et intervenantes puissent échanger avec peut-être les personnes qui posent des questions sur leur genre ou même les gens qui savent déjà, pouvoir échanger et avoir un moment de partage.
Tout à fait, ouais.
Et sinon, il y a aussi une exposition.
Exactement, exactement. Ça, c'est vraiment super chouette parce que c'est le résultat des travaux d'une étudiante trans sur lequel qu'on accompagne depuis un certain temps, qui s'appelle Lisa et qui a un œil artistique très fort sur l'outil de la photo. Et en fait, c'est la photo, c'est sa ressource. C'est sa ressource et le titre de cette exposition, il me semble que c'est Trajet, parce qu'en fait, elle se balade beaucoup dans Paris ou dans la région parisienne, elle prend beaucoup de photos. Et voilà, via cette exposition qui dure du 30 mars jusqu'au 12 avril, en fait, c'est une exposition permanente sur des bâches dans la citadelle, sur la place d'Armes, qui va être du coup très, très visible plutôt, assez.
Ça sera visible, enfin, tout le monde pourra aller la voir.
Voilà, voilà.
Pas que forcément les étudiants.
Non, pas que forcément les étudiants.
D'accord. Et du coup, comment on fait pour rejoindre les visios que vous allez proposer?
Alors, il y a les liens Zoom, je crois que c'est sur Zoom, qui seront disponibles sur l'événement. L'événement, il est sur Facebook. Ensuite, on va continuer de relayer jusqu'à l'événement.
Ben, merci beaucoup, Alexandra.
De rien.
Donc, je vous le rappelle, le 31 mars a lieu la Journée nationale de la visibilité trans. Et dans ce cadre, l'association Divergenres, en partenariat avec l'UPJV, l'Université du Littoral Côte d'Opale et l'Université d'Artois, propose deux journées dédiées à ce sujet, au programme des rencontres, des ateliers, des débats pour s'informer et se former, ainsi qu'une exposition photo à la Citadelle. L'idée, c'est de lutter contre les clichés et la transphobie. Si vous voulez plus d'infos, je vous donne rendez-vous sur le site internet de l'association divergenres.fr. Je me charge quant à moi de mettre toutes les infos dans le podcast de l'émission, émission qui touche à sa fin, mais ne vous en faites pas, on se retrouve demain, midi 18h, comme d'habitude. À demain.